Chapitre 11. La première chose qui me frappe quand je monte les trois volées de marche jusqu'à mon petit deux pièces, c'est l'odeur de muffins tout chaud. Ma mère, quand elle stresse, elle cuisine. Des cookies, des brownies, des pains, des barres de céréales, des scones. Il paraît que pendant ma captivité, tout le village, avocat des victimes compris, a pris 5 kilos. Elle a la clé de mon appartement. Les trois clés, en fait. Parce que j'aime bien multiplier les verrous. Mais après être entrée, elle n'a pas refermé derrière elle. Je n'ai plus qu'à pousser la porte pour l'ouvrir. Je sais bien qu'elle ne fait pas ce genre d'erreur dans le but délibéré de me contrarier, mais je sens tout de même mes épaules se crisper. Je ne suis pas pressée d'avoir la conversation qui va suivre. Elle non plus, sans doute. D'où les muffins. Au moment où j'entre, elle est dans la cuisine, penchée au-dessus du four pour surveiller la cuisson. La police ne m'a pas rendu mes vrais vêtements après ma mésaventure de cette nuit. Les ont-ils même retrouvés? Je n'en ai aucune idée. Si oui, ils seront conservés comme pièces à conviction. Quoi qu'il en soit, l'enquêtrice de quartier m'a fourni en catastrophe un pantalon de jogging gris trop grand et un sweat à capuche bleu marine de la police de Boston. Très certainement les vêtements de rechange qu'un agent transportait dans son coffre. Je nage complètement dedans. Et je suis obligée de tenir la ceinture élastique du pantalon pour marcher. Et comme je suis toujours pieds nus, je ne fais pas beaucoup de bruit en avançant à pas feutrés sur le parquet. J'ai choisi cet appartement pour plusieurs raisons. D'abord, comme il est au deuxième étage, il est plus difficile d'accès pour un éventuel intrus. Ensuite, ces vieux immeubles en grès typiques de Boston sont connus pour leur hauteur sous plafond, leur moulure et leur beau window. Mon appartement est petit, mais inondé de lumière grâce à ses vieilles fenêtres et plein de charme avec son parquet en chêne qui a vécu et ses belles boiseries. Est-ce qu'il y a des taches d'humidité au plafond? Bien sûr. Du lino qui se décolle dans la cuisine? Pas la meilleure idée de rénovation qu'aient eu les propriétaires. Évidemment. Une douche qui ne donne de l'eau chaude qu'après 3 ou 4 coups bien placés. Disons qu'une fille comme moi n'a pas vraiment les moyens de se payer ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, j'aime les défauts de mon appartement. Il a des cicatrices, comme moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre, d'autant que le couple de personnes âgées qui me le louent connaît mon histoire et ne me demande qu'une fraction de ce qui serait un loyer normal. Comme j'ai refusé de vendre les inévitables droits d'édition et de cinéma sur mon histoire, un rabais de loyer est à peu près le seul avantage que je puisse espérer tirer de mon enlèvement. Et dans la mesure où je n'ai jamais repris mes études, et où je n'ai toujours aucune idée de ce que je vais faire du reste de ma vie, l'argent est compté. Depuis quelques mois, je travaille comme serveuse dans une pizzeria fréquentée par les étudiants et les familles du quartier. Mon salaire horaire est dérisoire, les pourboires à peine mieux. Mais ce boulot ne me demande pas de réfléchir et c'est appréciable. Est-ce que c'est la vie que j'aurais imaginé mener à 27 ans? Non. Mais qu'est-ce que je connaissais? Quand j'ai quitté la ferme de ma mère pour aller étudier à la grande ville. Imaginez-vous que je m'étais inscrite en français essentiellement parce que l'idée d'aller à Paris me plaisait. Peut-être que je serais devenue prof. Ou alors je serais rentrée dans le Maine et j'aurais créé ma petite ferme à moi, avec des chèvres. J'aurais vendu du lait de chèvre, du fromage de chèvre, des lotions et des savons au lait de chèvre. Qui sait? Tout ça avec des étiquettes en français. À l'époque, j'étais assez heureuse, assez naïve pour nourrir ce genre de rêve. Mais les rêves changent toujours. Et pas seulement ceux des jeunes filles qui se retrouvent kidnappées pendant 472 jours. Je n'ai pas à m'occuper d'enfants. C'est déjà ça. Parce que ça aussi, ça arrive. Quand on reste suffisamment longtemps en captivité, des grossesses, des bébés peuvent s'en suivre. Mais Jacob avait des idées très arrêtées sur la question. Une fois par mois, il m'obligeait à avaler une ignoble mixture maison qu'il disait contraceptive. Elle sentait l'essence de térébenthine et déclenchait immédiatement d'insoutenables crampes d'estomac. L'infirmière spécialisée dans les agressions sexuelles, qui a réalisé mon premier examen, s'est intéressée à cette potion. Mais à son avis, c'était mon extrême émaciation et mon absence totale de graisse corporelle qui m'avait évité de tomber enceinte. De fait, pendant l'essentiel de ma captivité, je n'ai pas eu de règles, tellement j'étais décharnée. Je regarde ma mère se redresser devant la cuisinière, le moule à muffins dans sa main, protégé par une manique. Elle se retourne, me découvre et se fige aussitôt. D'un regard, elle note le jogging démesuré qui n'est évidemment pas à moi, puis les traînées d'ordures sur ma joue, dans mes cheveux. Elle ne dit rien. Je regarde sa poitrine se gonfler, une inspiration volontaire, suivie d'une lente expiration. À tous les coups, elle est en train de compter jusqu'à 10, en se demandant une fois de plus comment survivre à une fille comme moi. Autour de son cou, une chaîne avec un pendentif en argent. Un renard, délicat mais parfaitement dessiné. Elle l'a acheté après ma disparition, quand le FBI l'a préparé pour la première conférence de presse, en jetant aux orties ses tenues habituelles. Large pantalon de yoga et châle fluide tissé à la main, de ceux qu'affectionnent les anciennes des tribus afghanes. Exit, la fermière un peu bohème qui cultivait ses patates bio dans le Maine. Il s'agissait de ressembler à maman avec un grand M. Une figure maternelle, immédiatement reconnaissable, à laquelle on pouvait s'identifier et qui en appellerait au meilleur sentiment de mon ravisseur, à supposer qu'il en eût. Ils l'ont affublé d'un jean et d'une chemise blanche. Probablement la tenue la plus passe-partout qu'elle avait jamais portée de sa vie. Surtout si on ajoutait les vraies chaussures en lieu et place de ses Birkenstock habituels. Je n'ai pas vu cette première conférence, ni la deuxième. Je crois que je suis tombée sur la troisième, au moment où la tension montait. Même alors, en voyant ma mère à la télé derrière un micro entre deux agents du FBI en uniforme, vêtue une fois de plus d'un jean et d'une chemise bleu clair. C'était ma mère, mais ce n'était pas ma mère. Un moment surréaliste dans une existence qui avait déjà pris un virage totalement, horriblement surréaliste. J'ai failli éteindre la télé, me priver de ce rare divertissement, plutôt que de voir cette mère qui n'était pas la mienne. Mais c'est à ce moment-là que j'ai aperçu le pendentif, le renard niché au creux de sa gorge. Je n'ai pas entendu un mot de ce qu'elle a pu dire ce jour-là. Je me suis agenouillée par terre dans cette chambre d'hôtel minable, et j'ai posé un doigt sur le pendentif. Ma mère était si minuscule sur le petit poste de télévision, et le bout de mon index si large qu'il cachait une bonne partie de sa tête. Il se peut que j'aie pleuré. Je ne m'en souviens pas vraiment. À ce moment-là, j'avais déjà disparu depuis des mois. Je ne sais pas s'il me restait encore des larmes. Mais j'ai essayé de la toucher, cette mère qui n'était pas ma mère. Et pendant quelques instants, je suis redevenue une enfant qui faisait les 400 coups à la ferme, qui lançait des balles de golf aux renardos, et qui riait en les voyant donner des coups de patte au milieu des herbes hautes. Elle pose le moule à muffins sur la cuisinière. Ses mains tremblent un peu. « Tu as faim ?» demande-t-elle d'une voix presque normale. Sa ferme se trouve à 3h30 de route au nord de Boston. À supposer que Samuel l'ait contacté une minute après mon coup de fil, elle a aussitôt sauté en voiture et roulé depuis le point du jour. « Je devrais me doucher. » « Bien sûr. » Prends ton temps. Il semble qu'il n'y ait rien d'autre à dire. Je m'éloigne sur la pointe des pieds, toujours en tenant la ceinture du jogging. 4 grands coups dans la vieille tuyauterie et l'eau devient fumante. Je retire le jogging 10 fois trop large. J'entre sous le jet puissant et je me laisse ébouillanter. Un instant, je pourrais presque sentir de nouveau l'odeur de la peau humaine grillée, comme du porc au barbecue. Le moment passe et je ferme les yeux. Le vide me remplit et je l'accueille. Être toujours seule dans une pièce noire de monde. Les seuls moments désormais où je me sens en sécurité. Lors de mon retour à la vie après mon enlèvement, une des premières tâches de Samuel a été de mettre sur pied un protocole post-agression. En pratique, il a réalisé une évaluation de ma capacité à me remettre de l'épreuve et il s'est mis en rapport avec les spécialistes qui avaient suivi ma famille afin de mesurer les soutiens dont je bénéficiais déjà. Samuel a beau être un expert en stress post-traumatique, il n'est pas très fan de cette expression. De son point de vue, on l'utilise à tout bout de champ et sans tenir compte des spécificités de chaque cas. Au fil des années, il a pris en charge des dizaines et des dizaines de victimes. Même si nous avons tous subi un traumatisme, seuls quelques-uns peuvent prétendre souffrir d'un authentique syndrome de stress post-traumatique. En fait, il a formellement déconseillé à ma mère de partir du principe que c'était mon cas, voire de me trouver des excuses sous ce prétexte. Les survivants s'en sortent grâce à leur capacité d'adaptation. C'est leur arme devant l'adversité. C'est leur force. Ma mère, mon frère et moi ne devions pas nous attendre que je sois faible maintenant, ni favoriser une situation de dépendance. Au contraire, nous devions tous avoir pour priorité de renforcer ma résilience naturelle, celle qui m'avait justement permis de surmonter l'épreuve. En ce qui me concernait, Samuel m'avait prévenu que la plus grosse erreur qui guette les survivants, c'est de revenir sur ce qu'ils auraient pu faire, maintenant qu'ils sont en sécurité. Donc, interdiction de me demander pourquoi j'avais été dans ce bar le soir de l'enlèvement, ou pourquoi je ne m'étais pas débattu davantage, ou pourquoi je ne m'étais pas évadé la première fois où Jacob avait oublié de fermer le camion à clé, même s'il avait arrêté le poids lourd au milieu de nulle part, et qu'il pissait à deux pas de là, dans un fossé. Le passé, c'est le passé. Peu importe les erreurs que j'ai pu commettre. L'important est que je m'en sois sortie. Le piège de la remise en question. Samuel avait vu juste. Je fais moins de cauchemars sur Jacob en repensant aux occasions ratées, à ce que j'aurais dû faire. Quand je me suis inscrite à mon premier cours d'autodéfense, c'était pour calmer cette anxiété, soigner mes états d'âme. Par une ironie du sort, ma mère m'a encouragée dans cette démarche. Elle a même suivi ce premier cours avec moi. Samuel approuvait aussi. Renforcer ma confiance en mes capacités? Excellent. C'est quand j'ai attaqué mon quatrième ou cinquième stage d'autodéfense et que mon intérêt pour les armes à feu s'est fait plus marquer que ma mère s'est inquiétée. À l'époque, j'étais revenue vivre à la maison et je l'ai entendue en parler avec Samuel pendant une de ses visites destinées à évaluer comment nous nous en sortions, l'une et l'autre. Samuel n'est pas thérapeute et c'est encore moins le mien. Mais il m'avait recommandé de consulter pour être accompagnée, comme il disait. Je n'ai rien voulu entendre. Ces séances en tête-à-tête auraient par définition impliqué que je raconte mon histoire. Or, je n'en démordais pas. Je l'avais racontée une fois, comme promis, plus jamais. Curieusement, c'est ma mère qui a suivi le conseil de Samuel. Pendant que j'enchaînais des stages de conduite en situation d'urgence, elle s'est mise à voir le pasteur une fois par semaine. Encore un de ces constats que tous les survivants sont amenés à faire. Je n'étais pas la seule victime de mon enlèvement. Toute ma famille en avait pâti. Ma mère, qui après la troisième carte postale, avait plus ou moins laissé tomber la ferme pour se consacrer à temps plein à des tentatives pour rentrer en contact avec un pervers, dans l'espoir fou de revoir sa fille. Mon frère, qui avait arrêté la fac, d'abord pour répondre aux innombrables questions de la police, et plus tard parce que, selon ses propres termes, il était incapable de se concentrer en sachant que j'étais là, quelque part, et que j'avais besoin de lui. Le crime est comme un cancer. Il prend le pouvoir. Il accapare toutes les ressources d'une famille. Mon frère est devenu expert en réseaux sociaux. Il a créé une page Facebook, alimenté un fil d'actualité sur Twitter, et essayé de tenir en respect la presse qui a campé dans le jardin pendant des semaines d'affilée, en particulier chaque fois que Jacob envoyait une carte postale contenant de nouveaux appâts. Ma mère, quant à elle, passait ses journées avec les avocats des victimes et avec d'autres parents d'enfants disparus. Auprès d'eux, elle trouvait du soutien et des conseils, d'autant plus précieux qu'elle voulait se mettre rapidement à niveau sur les méthodes de la police, le comportement criminel, la gestion des médias. Elle a appris à mettre au point des messages pour les conférences de presse stratégiques et à faire la tournée des journaux télévisés du matin comme des talk-shows du soir sur les chaînes câblées. Elle a répondu à la main à des centaines, puis à des milliers de lettres de parfaits inconnus qui formaient des vœux pour mon retour rapide. Et elle a eu à subir d'autres messages, des posts Facebook, selon lesquels la petite dévergondée que j'étais de toute évidence n'avait eu que ce qu'elle méritait. En théorie, les victimes peuvent prétendre à des aides financières. Les victimologues n'ont pas manqué de donner à ma mère des dossiers qui auraient pu lui permettre de recevoir quelques milliers de dollars par-ci, de demander une allocation par-là. Mais elle vous dirait qu'elle n'avait ni le temps pour les remplir, ni la tête à ça. Non, l'enlèvement d'un enfant est une épreuve dont on sort passablement appauvri. Le péché que j'avais commis en sortant dans un bar un soir de vacances a entraîné le châtiment de toute ma famille. Dans notre cas, le village s'est mobilisé. Des voisins sont venus faire tourner la ferme sur leur temps libre. Ils ont préparé les semis, repiqué les plants, puis, comme l'épreuve se prolongeait, ils ont rentré la récolte en automne. La paroisse a organisé des ventes de gâteaux. Les commerçants ont envoyé des chèques. Les restaurants et les traiteurs ont offert des repas. Jamais ma mère ne quittera sa ferme. Elle ne l'aurait sans doute pas quittée de toute façon. Mais cette terre, sa maison, son village, c'est sa consolation, son repère. Ils étaient là au moment où elle en a eu le plus besoin, et sans eux, je ne sais pas ce qu'elle serait devenue. Elle a une place dans le monde. C'est mon frère et moi qui sommes toujours à la dérive. Darwin est parti, un an après mon retour, parce que je ne pouvais pas sourire sur commande, d'un coup de baguette magique. Quand j'ai commencé à ne plus supporter l'odeur des pancakes que j'adorais autrefois, la coupe a été pleine. Notre protecteur a pété un câble. Il a fait une petite crise pendant laquelle il a conduit beaucoup trop vite, tout phare éteint. Et ma mère s'est rendue compte que c'était plutôt à lui qu'il faudrait consacrer tout l'amour et toute l'attention que je refusais. Après de nombreuses discussions à cœur ouvert, elle l'a expédié en Europe. Elle lui a pris un passeport, un billet de train, un sac à dos, et elle l'a serré dans ses bras le jour où il est parti. « Trace ta route, jeune homme. Trouve ta voie, tout ça. » Darwin n'envoie pas de carte postale. Il n'est pas fou. Mais de temps à autre, nous recevons un coup de fil. Il est à Londres en ce moment. Il s'y plaît beaucoup et envisage de s'inscrire à la London School of Economics. Il est certainement assez brillant pour ça, et il aurait plein d'expériences à mettre en avant pour étayer son dossier de candidature. Je crois que c'est ce que je désire le plus au monde. Que mon frère s'en sorte. J'aimerais qu'il tombe amoureux, qu'il décroche un super boulot et qu'il construise sa vie. Qu'il cesse de payer pour mon erreur. Le plus drôle, c'est qu'il dirait sans doute exactement la même chose à mon sujet. Ma douche a assez duré. Savon, shampoing, après-shampoing. J'ai absolument tout fait, sauf me sentir propre. Cette odeur de chair humaine brûlée. Pas du porc. Plutôt du roast beef, peut-être. J'ai sauvé une vie, me répétais-je, en refermant le vieux robinet d'un grand coup. Une autre fille est hors de danger grâce à moi. Il y a une bête fauve de moins dans les rues. Le soleil brille. Mon appartement embaume le muffin aux myrtilles. Un de ces instants où je devrais m'arrêter et rendre grâce pour cette belle journée. Je pense à Jacob. Bien involontairement. C'est plus fort que moi. Je me souviens de l'homme qui m'a prise, qui m'a brisée et qui m'a ensuite reconstruite pendant 472 jours. Et dans un coin de ma tête, il se fiche de moi.